Quelques petits commentaires sur le marché. On parlait de la démolition du marché du Vieux-Port qui a commencé ce matin. Il y a une auditrice qui dit « J'habite pas loin, j'adorerais aller là parce que le métro Saint-Roch est tellement plus cher. » Je ne sais pas honnêtement c'est quoi la différence de prix. Il reste que pour moi, la définition d'un marché, c'est un endroit où nécessairement les choses sont moins chères parce que tu sauves un intermédiaire. Ce qui n'est pas le cas dans un endroit comme comme le grand marché là au centre Vidéotron, qui pour moi s'apparente beaucoup plus à des halls, comme les halls Sainte-Foy, puis des halls qui ont plein d'endroits là. Mais c'est ça le but d'un marché, c'est de sauver l'intermédiaire qui est le distributeur, si tu veux.
En fait, c'est souvent la fraîcheur des produits.
Aussi.
Quand tu achètes ton produit du producteur, tu sais, comme exemple le blé d'Inde. Quand tu achètes un blé d'Inde du producteur, il a été cueilli le matin.
Là.
Tu sais qu'il n'est pas parti du producteur, qui a fait du chemin en camion, puis il a été mis dans des étagères. Ça fait combien de temps qu'il est là, tu ne le sais pas.
Exact.
Mais quand tu l'achètes du producteur, là, la poche de blé d'Inde est là, puis tu sais que ça vient d'être cueilli. Là. Alors, c'est la grosse différence. Puis en plus, ce sont des produits locaux. Tu encourages quelqu'un de ton coin là, qui produit de la nourriture.
Et il y a quelqu'un aussi qui doit écouter l'émission assez régulièrement, qui me connaît assez bien, je pense, qui dit « Ben oui, c'est sûr que toi, Paul, quand tu te promènes dans le Vieux-Port, la chose que tu veux t'acheter, c'est une pomme. » Ben oui. J'aurais aussi pu dire... j'aurais pas pu dire un burger.
De temps en temps, une pomme.
Il doit avoir une place à burger, même s'il n'y a plus de... En tout cas, mon but, c'était... mon idée, c'était de dire, quand tu te promènes, tu peux pas t'acheter à souper, mettons, pour le soir en passant par une épicerie ou par un marché quelconque. Il n'y en a pas.
Non, dans ce coin-là, il n'y a pas de service. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y avait un dépanneur dans ce coin-là qui a fermé. Alors, il y a le IGA, puis il y a un petit casse-croûte.
IGA?
Il y a un IGA qui est dans Saint-Roch, là. Il est dans Saint-Roch. IGA ou métro?
Métro.
C'est un métro,
métro ouais.
Ouais. Il est dans Saint-Roch, lui. Puis il y a un petit casse-croûte qui est dans le coin de la promenade Samuel de Champlain à la fin, là, juste au moment là, avant que ça devienne.
Hey, on s'entend que.
Ouais, t'es loin, là.
On s'entend qu'il faut que tu partes du Vieux-Port pour aller casser ta croûte, là.
C'est ça. Mais remarque que à Place Royale, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir des
endroits
où tu peux manger.
Il y a J.A. Moisan. C'est vrai qu'il y a J.A. Moisan sur Saint-Jean.
Oui, lui, il est en haut, par exemple.
Mais il est en haut, ouais. Effectivement. Mais en tout cas, il y a ça. Écoute, il faut qu'on cherche, là.
Non, le choix n'est pas vaste.
Il faut qu'on creuse, là. Les syndicats de la fonction publique sont en pleine négociation avec le Conseil du Trésor en vue de renouveler leur convention collective. Et hier, on a eu le détail de, c'est pas mal la première ronde de négociation. Et moi, je trouve ça aussi intéressant qu'un téléroman. Alors, la question, c'est à quoi on doit s'attendre d'une première ronde de négociation? Vous le savez, des gens qui font des offres pas possibles, d'autres qui sont furieux. Je vais quand même vous donner le détail de cette première offre que le Conseil du Trésor a fait aux employés de la fonction publique. On parle de hausse salariale de 7% en 5 ans, ce qui représente un peu moins que l'inflation anticipée pour la majorité des travailleurs du secteur public. Malgré le fait qu'il y a des surplus, on a ciblé les enseignants et les préposés aux bénéficiaires. Ils sont quand même 145 000 là, au Québec. Là. Eux vont avoir droit à des considérations particulières, dit-on. Le montant de ces considérations-là n'a pas été dévoilé, là. Mais on sait qu'il va y avoir des tables de négociation spéciales pour les enseignants et pour les préposés aux bénéficiaires dans le domaine de la santé. En plus de ça, puis là, je sais que je suis dans les détails, mais c'est parce que ça met la table à la discussion. En plus de ça, il y a un montant forfaitaire de 1 000 $ qui va être octroyé aux 350 000 employés qui sont à l'échelon maximum de leur convention collective. Donc, les travailleurs expérimentés, qu'on voudrait essayer de garder. On voudrait qu'ils partent pas tout de suite à la retraite parce qu'il manque de monde. On va leur donner 1 000 $. Grosso modo, c'est ça. Donc, 1 000 $ à 350 000 de ces employés-là qui sont au dernier échelon. C'est un incitatif de rétention, personne qui s'en cache. Donc, quand on additionne tout ça, l'incitatif de rétention et les hausses salariales de 7% sur 5 ans, là, on arrive à peu près là à 9% d'augmentation sur 5 ans. Alors que l'inflation est autour de 10,2. L'inflation projetée est autour de 10,2.
Et les syndicats, eux, demandent pas mal plus que ça. Là, parce qu'eux autres, évidemment, ils viennent de sortir d'une période d'austérité. Puis ils se disent, là, c'est l'heure de passer à la caisse.
C'est ça.
Alors, pendant tout le mois de novembre, là, les syndicats ont égrené là, un après l'autre. Parce qu'il n'y a pas de front commun cette année. Souvent, les syndicats, ce qu'ils font, c'est qu'ils se regroupent et qu'ils demandent tous la même chose là, pour avoir un pouvoir de négociation plus fort. Mais ils n'ont pas fait ça cette année. La FTQ, par exemple, demande 12,3% d'augmentation salariale en 3 ans. En 3 ans, là, on est loin du 9% en 5 ans. 12% en 3 ans. La CSQ, eux, c'est un petit peu plus original. La première année, ils demandent une hausse de 2 $ l'heure. Mais là, ça dépend quel est ton salaire. Là. Si tu gagnes, mettons, je sais pas moi, 20 $, puis tu demandes 2 $ d'augmentation de l'heure, t'es pas loin de 10% pour la première année. Juste la première année. Et pour les deux autres années, ils demandent 3 % par année. Alors, faites
en
le compte.
En plus du 2 $ parce que là, après, ils vont pas enlever.
Le 2 $ c'est la première année. Alors, eux autres, ils disent, là, première année, on veut une augmentation du taux horaire de 2 $ l'heure. Et après ça, 3 % pour les deux années suivantes. Donc, 3 % la deuxième année, 3 % la troisième, ça fait 6 %.
Ça fait qu'on comprend que, d'un bord, tu as le gouvernement qui propose 9,2 % sur 5 ans. Et t'as l'évaluation qui est faite du gouvernement, c'est que les syndicats demandent quelque chose comme 28 % sur 5 ans. Ça fait qu'il y a quand même une bonne marge entre 9,2 et 28. Mais évidemment, c'est une première ronde. Je te propose qu'on écoute Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, parce qu'évidemment, et même il s'en est pas... Moi, c'est ça que je trouve fantastique. Il s'en est même pas caché. Tu sais, il a même pas dit « Non, non, c'est cette offre-là, puis ça bougera pas. » Non, non, il a comme laissé entendre qu'il y avait encore des cartes à jouer dans son...
On ne vous dira pas le chiffre. Il reste encore de la marge de manœuvre pour être capable d'aller atteindre justement les engagements électoraux qu'on a fait, que ce soit en éducation ou en santé.
Pas sûr que c'est une bonne stratégie, moi. Ben,
ça
me semble que tu dis, ben là, regarde, là, c'est un peu fauné, là, ce que je viens de vous donner comme offre. Il y a encore de la place.
Mais ça met quand même la table plus tard dans la négociation pour dire, ouais, ben là, regardez, là, au début, il me restait des cartes, mais là, il m'en reste plus. T'sais, mais tout ça, c'est une stratégie de négociation.
Ben là, c'est parce que de l'autre côté, là, ils sont pognés de la dernière pluie. Là, ils savent pas mal jusqu'où ils peuvent aller. Puis tu sens qu'ils sont plus gourmands cette année. Et il y a une chose où il faut rendre hommage un peu à M. Dubé, c'est que ces offres sont... avant, là, les offres gouvernementales, là, c'était la grosse poche de Bledin. On parlait de Bledin tantôt. Là. Voilà, pop!
13 à la douzaine.
Alors, vous êtes tous les syndicats autour de la table. Là, voici ce qu'on offre. La grosse poche de Bledin arrive sur la table. Tandis que là, il s'est adapté aux différents corps de métier. Alors, ce qui est quand même pas pire. Puis, il a dit dans certains corps de métier, parce que évidemment on parle beaucoup de salaire, mais il y a des corps de métier qui disent, là, c'est pas juste un salaire, là, c'est que nous autres, de notre côté, on n'a plus les moyens de faire notre travail adéquatement. C'est beaucoup ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben là, moi, si ça s'améliore pas, je vais quitter. Puis, c'est pas juste salarial, là. Alors, lui,
c'est... Je ne pourrais pas être plus direct dessus. Regarde, ben, je te lis un texto. Je suis un employé de la fonction publique. Et si on écoute juste nos syndicats, c'est argent, argent, argent. Mais si on discute en collègues, c'est plus climat de travail, qualité de vie, aussi argent, mais pas juste ça.
Il faut que le climat de travail soit bon, puis il faut que quand tu fais ton travail, tu as l'impression d'avoir les outils pour le faire. C'est ce qu'on comprend, là. Puis lui, ce qu'il a dit, le M. Dubé, il a dit, bon, on va faire des forums de discussion, des rencontres pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et ça a pas vraiment impressionné la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Mme Sonia Etier.
Les gens, là, les enseignants, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, le personnel de soutien, ils sont sur le terrain, ils connaissent les problèmes, ils connaissent les solutions. On n'a pas besoin d'un forum, on peut aller directement aux tables de négociation.
Et tu vois, il y a une auditrice qui nous écrit, elle dit « Je suis fonctionnaire au gouvernement du Québec et le même travail dans le réseau de la santé ou dans le réseau de l'éducation, je gagnerais plus actuellement et c'est encore eux qui vont tout avoir et moi, après 3 ans et du cégep, j'ai actuellement 39 900, donc près de 40 000 par année. En même temps, moi, je comprends, mais là, c'est parce qu'il y a des paramètres qui sont à considérer dépendamment c'est quoi le travail que tu fais versus travail santé-éducation, dépendamment de ton poste. Là, dans ce cas-ci, elle est technicienne. Ben, après 3 ans de cégep, je présume qu'elle est technicienne. Mais t'as des gens aussi qui sont des professionnels, des patentes. Donc, c'est un peu compliqué. Concernant le 1000 $ au top de l'échelon, on dit, ouais, c'est parce qu'après, dans certains corps de métier, là, après 9-10 ans, t'es rendu au top de l'échelon. Moi, la connaissance que j'ai, là, en fonction des gens que je connais dans la fonction publique, c'est un peu plus long que ça. Donc, ça doit dépendre, encore une fois, de là où t'es dans ta job, de ton corps de métier. Mais il reste que ça va quand même s'adresser à ces gens-là, dans le sens où les gens qui sont sur le bord de la retraite, c'est inévitable ou presque qu'ils ont atteint l'échelon le plus haut. Maintenant, c'est-tu un bonus qui va vraiment te permettre de te dire « Ah ben, je vais repousser ma retraite? »
Ouais, c'est probablement ce qu'ils veulent faire, mais est-ce que ça sera suffisant?
T'sais, c'est un voyage dans le sud, mettons. On va regarder ça comme ça. Là. Est-ce que tu es capable en disant aux 350 000... T'sais, c'est 350 000 personnes, ça fait que c'est quand même beaucoup d'argent pour dire « Regarde, un voyage dans le sud, puis tu continues de travailler. » Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Mais tu parles à des gens qui ont un REGOP aussi. Là. Tu parles à des gens qui ont quand même une retraite pas trop mal, là, s'ils ont commencé jeunes, évidemment, puis qui ont atteint le maximum, qui n'ont pas de pénalité, qui prennent pas leur retraite plus tôt. Tu sais, il y en a beaucoup des paramètres là-dedans. Rendu mais le 1000 piastres, moi, je me demande si c'est pas une fausse bonne idée. Tu sais.
Ben, rendu là, là, je pense que c'est pas l'argent qui va motiver les gens, c'est les conditions de travail. Si là, c'est difficile de se rendre au travail le matin, comment même que tu donnerais 1000 $ de plus à ces gens-là, ils vont probablement se dire, ben là, j'ai fait mon temps. Là. J'approche de la retraite ou je suis arrivé, j'en fais pas plus. J'arrête là.
En ce qui concerne, moi, comme observateur de l'actualité, je suis pas fonctionnaire, mais comme observateur de l'actualité, les gens dans le domaine de l'éducation puis les gens, les préposés, je vais reprendre, les enseignants et les préposés aux bénéficiaires. Donc, j'exclus les gens qui sont des fonctionnaires qui travaillent dans les commissions scolaires, par exemple. J'exclus évidemment les médecins. Là, on parle vraiment des enseignants et des préposés. Moi, je pense que c'est des jobs où, effectivement, les conditions sont à améliorer. Ou les salaires ou les conditions où je les laisse négocier. Mais je vois quand même ça d'un bon œil qu'on ait ciblé ces corps de métier-là. Mais on n'a pas détaillé, par exemple, dans le cas des préposés aux bénéficiaires dans le système de santé, on n'a pas précisé de quoi serait faite cette espèce de bonification-là. Il y a quand même la ministre de la Santé, Danielle McCann, qui a commenté.
Je ne veux pas aller dans le spécifique parce qu'il faut faire la discussion, mais je pense que ça risque d'être suffisant pour en attirer et en retenir davantage.
Ça risque?
C'est rien de bien glamour pour l'instant, mais comme je vous dis, on est à une première ronde de négociation. Et tout ça, d'une certaine manière, est normal, dans le sens où, quand tu travailles au privé, tu négocies ton salaire constamment, là. Tu es tout le temps en train. Puis là, je vous parle même pas de la radio, mais la radio, ça, c'est comme c'est l'apogée du privé, on s'entend, là. Mais, je veux dire, moi, je renégocie. J'ai des contrats d'un an. Fait que je renégocie à chaque année, là. Puis des fois, il n'y a pas d'augmentation, des fois, il y a des augmentations. Quand tu rajoutes ou tu t'enlèves des tâches, ben, tu sais, le salaire suit. Puis le seul poids de négociation que tu as, c'est pas une menace de grève. C'est le boss, il veut-tu te garder ou il y a quelqu'un d'autre qui coûte moins cher pour faire la job ou. Tu sais, c'est juste ça. Mais j'ai des chums qui travaillent dans des firmes d'ingénierie, j'ai des chums qui travaillent dans des garages aussi simples que ça. Tu sais, peu importe la job que tu fais, si t'es au privé, ben la question c'est où est-ce que c'est quoi ma valeur puis où est-ce que je suis capable de me rendre pour que l'employeur il me le donne puis il veuille pas faire la job par un autre. Puis c'est qui les autres disponibles? Dans le public, c'est pas comme ça que ça fonctionne, donc c'est normal que ces négociations-là prennent du temps parce que tu peux pas régler d'un seul coup comme ça. Ça représente des centaines de milliers d'employés quand même.
Puis il y a une chose qui a beaucoup changé avec les époques. À l'époque, là, quand j'étais jeune puis que je commençais sur le milieu du travail, là, ce qui était valorisé, là, disons, où on se disait à quelqu'un que ce job-là, il est chanceux, c'était la sécurité d'emploi.
Ah oui.
C'était ça.
Mais c'est encore un peu le cas.
Ouais, mais moins. Moi.
En tout cas, moi, je vais te dire, avec le pas de sécurité d'emploi que j'ai, puis plein de gens à qui je parle qui signent des contrats d'un an, deux ans dans des compagnies, puis qui n'ont aucune idée à l'issue de leur contrat, qu'est-ce qui va arriver. T'annonces que de regarder la sécurité d'emploi qu'il y a dans la fonction publique, là, t'es intéressant, moi, t'as dit. Tout le monde aurait envie d'avoir ça.
C'est sûr, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que maintenant, c'est la sécurité d'emploi? Je te pose la question parce que toi, t'as cet âge-là, là, pas moi.
Ouais.
Mais est-ce que c'est la sécurité d'emploi ou avoir un salaire décent et surtout des conditions qui peuvent te permettre de bien faire ton travail et de comment je pourrais dire, de t'accomplir dans ce travail-là?
Si je vais te répondre, je vais te donner une réponse extrêmement millennial.
Allez-y.
Mais le numéro un dans la liste de priorités, c'est un travail où tu te sens valorisé et tu as l'impression que tu es utile. Pour moi, c'est de loin la chose la plus importante. Après, salaire, avantages sociaux puis sécurité d'emploi, là, pour moi, les deux, c'est comme une espèce d'équilibre. Tu n'as pas de sécurité d'emploi, faut que le salaire augmente. Gagner moins d'argent pour avoir une sécurité d'emploi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que ça m'assure de travailler pendant 40 ans. C'est bien sûr que moi, à radio, si je pouvais avoir une sécurité d'emploi et être certain que je vais avoir un micro pendant 35 ans, ce serait absurde parce que j'aurais jamais de job en radio si l'industrie était faite comme ça. Un jeune comme moi aurait jamais pu faire sa place à radio. Mais je prendrais bien moins d'argent pour avoir une sécurité d'emploi, ça c'est évident. Mais après, c'est moi qui ai fait le choix, là aussi. Moi, j'ai fait le choix d'aller à une place où il n'y en a pas de sécurité d'emploi.
Parce que c'était un travail qui te plaisait, puis tu
voulais
faire ça.
Voilà, ça c'était le critère numéro un. Puis après, quand tu négocies, tu dis, bon, ben regarde, voici, là, le salaire que tu me donnes, c'est un salaire de quelqu'un qui aurait une sécurité d'emploi, ça prend plus. Puis ça fait que ça fait partie de la négociation. Mais moi, quand je lis des études, puis on va aller à la pause là-dessus, mais tu sais quand il y a des sondages, là, que genre, là, qu'est-ce que les jeunes ont le plus besoin? Ah, de se sentir accompli. Tu sais, tu lis ça, là. Je suis sûr que toi, tu lis ça, puis tu te dis, boyant, les jeunes, là. Et là, tu sais. Ça, nous autres, dans notre
c'était pas la même chose. On avait un bon travail, bien payé et une sécurité d'emploi, ce que j'ai jamais eu, là. Ben, en tout cas, pour la sécurité de l'emploi. Ouais. Puis, ouais. C'était ça qu'on voulait. Là. Ben, ouais. Tu parlais des contrats d'un an. C'est la même chose pour moi. Là. Moi, c'est année après année. Exact. Là. Je vois pas plus loin que ça. Là.
Mais quand je lis ça, je le crois à 100%. L'histoire de « Ah, les milléniaux veulent un travail dans lequel ils se sentent bien et blablabla. » Peut-être qu'on est fait soft, qu'est-ce que tu veux, mais on a besoin d'aimer nos jobs.
Autre époque, autre priorité. C'est
exact.
Juste ça.
On prend une pause, on revient bientôt.